Bonjour Michel Churia, merci de me recevoir chez vous pour cet entretien. Ma première question va porter sur la construction de votre texte. Parce qu'après en avoir lu les 10 premières pages, je me suis souvenu de Maître ancien de Thomas Bernard. On y trouve une construction assez semblable. Il n'y a pas de paragraphe, c'est un texte en continu. C'est un dialogue sur la pensée. Dans le texte de Bernard, le narrateur dialogue avec Reger, qui est un compositeur mort en 1916. Et dans votre texte, un narrateur dialogue avec Dagerman, mort en 1954. Dans les deux textes, l'action est postérieure à la mort réelle de Reger et de Dagerman. Donc ma question, est-ce que vous êtes inspiré de ce livre pour la construction du vôtre ?
Non, mais certainement il m'a inspiré, parce que je l'ai lu bien évidemment, et je ne m'en suis pas du tout souvenu. Il n'y avait pas de... Non, je ne pense pas du tout qu'il y ait de ma part quelques soucis que ce soit d'essayer de faire de même, mais forcément, inévitablement, cela entre dans les éléments de la construction du livre.
Très bien. Ce livre est un texte de fiction. Vous mentionnez sur la couverture « roman ». Alors je voulais vous demander si le roman vous permettait de fabriquer de la pensée sur Nietzsche que vous ne pourriez fabriquer autrement, notamment dans un texte théorique.
Oui, ça oui, bien sûr. Je ne serais déjà pas tout à fait d'accord avec vous sur l'équivalence que vous me faites d'emblée entre roman et fiction. J'ai appelé roman ce livre que j'aurais pu appeler récit, que j'aurais pu appeler conte ou sens du conte philosophique ou dialogue ou... Je l'ai appelé roman parce que la question se pose pour moi depuis longtemps de ce que pourrait encore le roman si on utilisait ce mot. Mais je me suis peut-être moins posé la question de savoir ce que pourrait le roman que je ne me suis posé la question de savoir ce que ne peut plus la philosophie. Et que donc permettrait quelque chose d'autre que nous intitulerions provisoirement roman. C'est une vraie question, quelques-uns, peu nombreuses que peu l'ont lu encore, m'ont fait l'objection qu'on pouvait difficilement intituler ce livre roman. C'en est un, pourtant. D'ailleurs, puisque vous faites le parallèle avec Thomas Bernhardt, il s'impose davantage à mon esprit, en cet autre sens où Thomas Bernhardt appelait ses textes dits autobiographiques, c'est-à-dire La cave, le souffle, etc., romans autobiographiques. Il y a dans ce... Un livre de philosophie serait un livre qui parlerait de Nietzsche. C'est un livre qui penserait Nietzsche. Nietzsche n'est pas quelque chose que pense ce livre. Nietzsche est le moyen, et un moyen en somme romanesque, en un sens dont je m'expliquerai peut-être plus avant et plus longuement, en un sens existentiel, de penser tout simplement. Il s'agissait pour moi de penser. Et Dagerman ou Nietzsche, pour les avoir lus l'un et l'autre assidûment, longtemps, depuis très 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 longtemps, sont les moyens pour faire ce que j'appelle l'expérience de la pensée. C'est-à-dire que je fais cette supposition que le roman est le moyen d'une expérience de la pensée ou de la pensée comme expérience. C'est-à-dire que je fais l'hypothèse d'un événement de pensée qui serait au moins aussi déterminant qu'un événement d'action. En ce sens, on peut dire plaisamment que ce livre est plein de rebondissements. Des rebondissements existentiels. On peut les appeler rebondissements métaphysiques, si on veut. Mais il y a aussi énormément d'autobiographie dans ce livre. Certes, difficilement lisible, pas donné comme tel. Mais d'une certaine façon, ce n'est pas un livre moins personnel, moins intime qu'Olivet, que j'avais écrit, qui, quoi qu'il parle de toute autre période d'existence. Mais voilà. Alors, cette question-ci que vous posez pour me permettre de revenir à celle qui précède. Dagerman ou Nietzsche ou Boès sont pour moi des personnages au même titre que n'importe quel vivant peut l'être. À ce moment-là, tout se mélange. J'y ai peut-être étrangement, mais peut-être même follement, trouvé plus de réalité, connu plus de réalité que la réalité nous permet de maîtriser de réalité. C'est-à-dire que sitôt qu'on fait, qu'on transfère la possibilité de la narration existentielle, de la douleur existentielle, de l'impasse existentielle, vers quelques figures comme ça, assez amples pour n'être pas circonscrites facilement, eh bien, on pourrait dire évidemment qu'on se gonfle soi-même vaniteusement à la dimension de quelque chose d'immense. Oui, bien sûr, mais ce n'est pas tellement le cas. C'est-à-dire on se dissout dans quelque chose qui permet que quelque chose se pense de façon très générale et à l'intérieur de quoi, par surcroît, on est soi-même pensé et on se pense soi-même.
Je vais continuer un peu sur mon idée de départ et puis après on prendra d'autres directions. Donc ma question va être un peu bancale, mais j'y reviens, ça permettra de préciser de préciser plus encore ce que vous venez de dire. Avec ce texte de fiction, vous construisez un certain nombre d'hypothèses sur Nietzsche, hypothèses que fait le narrateur, mais que fait également Dagerman. Finalement, le roman, intitulé Roman donc, est-ce une forme commode pour bâtir des hypothèses audacieuses qui concernent la philosophie ? C'est-à-dire que sous couvert de fiction, est-ce que c'est pour vous la possibilité de penser de manière plus débridée ?
Non, vraiment pas. Je crois pas que je suis un lecteur de bataille, donc je crois pas que je me serais interdit de penser, et d'ailleurs les hypothèses sur Nietzsche ne sont pas si audacieuses que ça, et je ne me serais pas interdit du tout de les inscrire dans un essai, au sens où par exemple j'ai écrit Une animalité, ou j'ai écrit L'imprécation littéraire. Non. Même ce que vous dites me chagrine, parce que c'est vraiment parce que j'éprouve le besoin de comprendre quelque chose de ce qu'est l'éternel retour. C'est pas du tout parce que j'ai des hypothèses moi-même, au départ de ce livre. La question de départ, tout simplement, pour moi, est celle de la consolation. Pourquoi il y a de l'inconsolable? C'est une question qui me taraude depuis toujours. Il y a un reste de douleur inconsolable. À quoi les religions, jadis, ont répondu? À quoi l'espérance messianique récente a répondu? À quoi rien ne répond plus? Et ce n'est pas une question professorale, c'est une question vraiment très exactement existentielle, qui engage l'existence même. C'est-à-dire qu'il y a question aussi beaucoup de suicides dans ce livre. Et qu'est-ce qui vaut que ça vive encore si tôt qu'on mesure que quelque chose en... que quelque chose, donc que tout est perdu. Alors, c'est là qu'intervient Nietzsche. Dans la mesure où je l'ai lu comme on lit héroïquement quand on est très jeune Nietzsche, c'est-à-dire davantage comme une sorte de figure héroïque que comme une figure philosophique. Et il y a l'éternel retour, grande énigme. Je ne cherche pas à comprendre quelle énigme ce fut pour Nietzsche, je ne fais pas un travail philologique. Les philosophes que je mets en présence, qui ne sont pas que deux philosophes, mais qui sont quand même aussi essentiellement deux philosophes, se posent la question de ce qu'il en est pour eux, de la consolation que permettrait l'éternel retour. Et se pose aussi, parallèlement à la question de l'éternel retour, la question de l'amour, qui est une question que je pose à Nietzsche, que Nietzsche ne pose pas d'ailleurs, ou fort peu, ou dont Nietzsche est le malade, comme tout besoin de consolation est malade. Voilà, ces questions-là, elles sont infiniment intimes, c'est pour ça qu'elles ne sont aucunement pour moi professorales. Il se peut que j'ai échoué à montrer qu'elles sont intimes, c'est sans doute par pudeur, parce que j'ai pas voulu pousser plus avant leur intimité même, mais j'ai pu aussi vouloir montrer, et je pensais, en finissant, avoir réussi à montrer que des questions philosophiques étaient aussi des questions intimes.
Effectivement, ça replace complètement. Parce que je vais vous poser bien sûr des questions après sur le thème principal, l'amour, et bien sûr la consolation, qui est une réflexion effectivement que vous avez depuis très 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 longtemps dans vos livres et qu'on retrouve complètement dans l'éternel retour. Je souhaite terminer encore un petit peu sur la forme. Votre texte est une fiction que vous mentionnez être un roman. Or, moi, sa lecture, l'impression forte qu'il m'a fait, c'est que ce texte pourrait être dit au théâtre. Et même qu'il était fait pour une scène, pour être dit à haute voix. Est-ce que vous l'avez travaillé en ce sens?
Tout ce que j'écris en littérature est écrit à haute voix, en quelque sorte. La haute voix intérieure, mais essentiellement liée à la musique. C'est une... un ami, Claude Lucombé, qui me parlait longuement de la musique au sujet de ce livre. C'est vrai que la musique y est essentielle, et tout ce qui s'énonce par dès l'instant que je sors de l'essai, de l'essai général, l'essai en littérature, de l'essai en philosophie, de l'essai en politique. Dès l'instant que j'écris de la littérature, j'écris à voix haute. C'est inévitable. Parce que, certainement, j'ai cette nostalgie de la poésie perdue, par quoi j'ai commencé. C'est là aussi un deuil inguérissable. Comment a-t-on écrit d'abord de la poésie, puis abandonné la poésie, comme la plus haute des langues, c'est évident. Et de la musique que j'ai jamais su écrire et que j'ai jamais su interpréter, et dans le deuil de quoi je suis aussi, ça c'est évident. Que si j'avais eu le choix, la musique aurait prévalu, pas la littérature et pas la pensée. Donc voilà, la littérature vient en palliatif, mais vient substitutivement, et toute la littérature que je lis aussi, je la lis à voix haute. Et j'aime moi-même faire l'expérience de lire autrui ou moi-même à voix haute. Thomas Bernhard, évidemment, je ne le lis qu'à voix haute. Bataille, je le lis à voix haute, évidemment. La construction des phrases de Bataille, si difficile qu'elle soit, et si imprévisible quand on lit une phrase de Bataille pour la première fois, qu'on risque de s'y perdre, c'est à voix haute qu'on la lit vraiment le mieux. Blanchot, je ne peux pas imaginer de lire par exemple des textes courts comme La Folie du jour, admirable livre de Blanchot, autrement qu'à haute voix. Voilà, toute littérature de pour moi qui... C'est une question qui est une évidence. Ce que vous dites est pour moi l'évidence, en même temps je n'y ai jamais vraiment réfléchi. Qu'est-ce qui distinguerait effectivement un texte susceptible d'être dit à voix haute et d'un texte fait pour être dit à voix basse? Quels seraient ces régimes différents de langue, et donc quels seraient les fondements de pensée différents? Ça, j'essaierai d'y penser.
Alors, pour terminer sur cette thématique du roman, au fil de ma lecture, je pense avoir compris pourquoi vous avez choisi ce que vous venez de dire, pourquoi vous avez choisi cette forme de texte, parce que le roman apporte une grande émotion, et votre texte est très touchant, et je me suis surpris vraiment à être touché par ce trio, le narrateur, Dagerman, Nina. Ce trio devient touchant, et les pensées entre Dagerman et le narrateur du coup deviennent sensibles, riches en émotions pour le lecteur. Donc ma question, c'est par la fiction vous permet-elle de rendre la pensée sensible, et donc de rendre intime votre réflexion?
J'ai retrouvé une phrase de Bataille en pensant, je l'ai retrouvée hier, c'est dans un entretien radiophonique, justement, que Bataille dit cela, c'est le 10 juillet 54. Et il dit, évidemment, ce que j'ai à dire est tel que son expression a plus d'importance pour moi que le contenu. La philosophie en général est une question de contenu, mais je fais, pour ma part, appel davantage à la sensibilité qu'à l'intelligence, et dès ce moment, c'est l'expression par son caractère sensible qui compte le plus. D'ailleurs, ma philosophie ne pourrait en aucune mesure s'exprimer sous une forme qui ne soit pas sensible. Il n'en resterait absolument rien. Alors, oui, c'est toujours cette recherche dans laquelle j'étais d'une forme qui conjugue, qui concilie, qui rapproche l'une de l'autre la littérature et la philosophie, que j'ai fait le choix cette fois-ci pour cela, parce que c'était infiniment sensible pour moi, et parce qu'il me fallait que je le rende sensible aussi à mon tour, que j'ai fait le choix, effectivement, d'une construction à caractère de fiction ou de roman, avec des personnages lesquels ont des liens substituables. Après tout, il n'est pas si facile que ça d'imaginer que, pas si difficile que ça d'imaginer que Dagerman et Boès sont le même à deux périodes différentes de l'existence, et Nina la même pour chacun, que l'amour est une chose qui les engage l'un l'autre. Tout cela, la philosophie, c'est Jean-Luc Nancy qui le disait une fois, que la philosophie était passée à côté de l'amour. Tout cela, dès l'instant que je commençais par l'inconsolation, ou la consolation, ou l'inconsolation, et que quelque chose que je voulais dire porterait ce livre, je le savais, soit vers la mort, soit vers l'amour, je ne le savais pas au début, en réalité, c'était effectivement la littérature qui allait le permettre, si puissamment que j'en appelle pourtant à la pensée. Mais je ne suis pas sûr non plus, c'est peut-être une des formes de mon jansénisme paradoxal, c'est que je ne suis pas sûr que l'amour n'appartienne pas à la pensée autant ou sinon davantage qu'au corps ou qu'à l'existence. Enfin voilà, je ne distingue plus bien ça, pensée, corps, existence, ça ne me paraît plus si distinct et de moins en moins avec le temps qui passe maintenant.
Alors justement, abordons l'amour, je continue sur cette voie. C'est avec leur vie que le narrateur Edda German pense. C'est avec le vécu du narrateur tout d'abord, et on apprend que ce narrateur est le même que celui d'un de vos précédents romans, Des Figurations. Et le lecteur retrouve donc le vécu du narrateur avec Édouard Adler. J'en parlerai dans le texte d'introduction.
Le narrateur n'est pas le même que celui de... Enfin, le narrateur. C'est une supposition que vous faites qu'il faut que j'interrompe en partie, parce qu'elle est hypothétique. Édouard Adler revient là, le narrateur évoque Édouard Adler. Oui, non, vous avez raison aussi, mais là il y a une ambiguïté intentionnelle.
D'accord, c'est-à-dire que j'avais pris vraiment le narrateur pour le même que celui de Défiguration, parce que quand il a cité Édouard Adler, pour moi c'est évident. Mais pour vous, d'accord, j'ai interprété complètement alors.
Je suis obligé de dire que vous avez en partie raison, et je suis obligé par la même alors à faire à confesser que j'ai sans doute voulu aussi, dès l'instant que j'objectais à ce que vous disiez, qui est structurellement juste, c'est que j'ai dû vouloir sans doute éviter qu'on fasse un rapport autobiographique trop strict, qu'on établisse un rapport autobiographique trop strict entre les deux récits. Mais c'est vrai qu'on est, à la lecture de L'Éternel Retour, autorisé, comme vous le dites, à déduire que le narrateur est le même dans Des Figurations. Mais c'est d'une certaine façon rendre pour moi ces deux livres, alors là, sans que je puisse m'en défendre, tout à fait intime.
Donc nous avons d'une part un vécu de narrateur, on sent qu'il y a quand même, qu'il a toute une histoire avec lui, et on sent aussi le vécu de Dagerman donc, et son histoire d'amour avec Nina, et l'histoire d'amour avec Nina entre Dagerman et Nina va prendre quasiment toute la place petit à petit dans ce livre. Alors c'est l'amour qui va modifier la pensée, et est-ce que c'est l'amour aussi qui va rendre sensible la pensée?
Il va falloir que je revienne sur ce que j'ai dit tout à l'heure et sur les rapports entre Adler et Dagerman, l'un et l'autre ayant en commun évidemment d'avoir renoncé à écrire. Dagerman renonce à écrire, à penser, à publier. Non, il ne renonce pas à penser, il renonce à publier de la pensée. Par amour, dit-il d'ailleurs. Et Adler ne voulait que tout soit détruit de ce qu'il avait écrit. Ces deux livres-là, bon, c'est pour ça que j'ai souhaité la réédition de Défiguration en même temps que la publication de L'Éternel Retour, je souhaitais que la méditation que j'avais menée dans l'un qui portait sur ce que peut la pensée et les limites, ça c'est ce que dit Défiguration, rebondisse là, soit lu à nouveau frais pour moi 10 ans après. C'est une vraie question aussi pour moi. Alors évidemment, c'est l'amour qui dit d'une certaine façon, c'est ce que Dagerman dit, qui montre l'inanité de la pensée en tant que pensée professorale, en tant que pensée élaborée, en tant que pensée construite, mais en même temps qui la rend précieuse en tant que pensée existentialisée, intériorisée. C'est ce que le narrateur, Boès, vient entendre, vient écouter. C'est ce qu'il fait changer, je pense. Peut-être il a un rapport d'élève à maître, comme il avait aussi un rapport de disciple à maître dans Des Figurations, pour autant que ce soit les mêmes narrateurs. Mais, de toute façon, dans les deux cas, il y a une valence entre un homme plus jeune et un homme plus âgé, un homme d'une œuvre construite, un autre d'une œuvre moins construite, un homme qui a poussé plus loin l'expérience de la pensée et un autre qui somme la pensée de lui faire faire l'expérience de quelque chose. Ça, c'est le narrateur. On pourrait penser qu'il y a un désenchantement, une désillusion de la pensée chez Dagerman. Ce n'est pas le cas, c'est ce qu'on découvre. On découvre que L'amour lui a fait faire ce pas au-delà que la pensée ne lui permettait pas. Donc l'existence, ce qu'il appelle le petit art vivant contre le grand art savant. Et le narrateur vient au-devant de lui, lourd de cette sommation, de cette comination qui est la sienne, qui consiste à lui dire « Toi, ta pensée, moi, la mienne, Nietzsche, la sienne, Kafka, puisque d'autres passent comme ça dans ces pages, que peuvent-ils pour que nous puissions penser quelque chose de nous ?» Et d'une certaine façon, Dagerman lui objecte silencieusement que nous ne sommes pas la pensée. Il y a quelque chose de mystique dans le rapport de cette... Enfin, il y a quelque chose comme un appel à quelque chose de mystique dans la philosophie, c'est qu'il y a un paradoxe. Ou alors, quelque chose d'une... Ce serait une référence qui pourrait surprendre plus d'un, mais il y a quelque chose de l'art chevaleresque que tu tires à l'arc dans le bouddhisme zen, dans ce livre-là. Pour ceux qui connaissent ce livre, le rapprochement est possible sans doute. Nous ne sommes pas la pensée de produire des effets, et surtout pas expérientiels. Aucune pensée n'a jamais changé aucune existence. Ce qu'attend d'elle pourtant le narrateur, et c'est ce que Dagerman, avec plus de sagesse sans doute, lui objecte et sans doute lui enseigne, c'est que c'est l'expérience et l'existence qui sont susceptibles de changer la nature profondément de la pensée. Sans l'invalider pour autant, sans du tout faire qu'elle soit moindre, faisant seulement qu'elle est moindre, l'effet élaboré, c'est-à-dire le livre, dans lequel la pensée finit toujours, par définition, et par paradoxe finit dans celui-ci encore aussi.
En même temps, pour continuer là-dessus, ce thème de l'amour qui traverse tout le texte, j'ai l'impression que l'idée principale est que si Nietzsche avait rencontré l'amour, cela aurait changé sa pensée.
C'est l'hypothèse que je fais, j'en suis convaincu pour ma part. Cet homme Nietzsche est un grand mystique, bien évidemment, et il déplace sans cesse son idéalité de l'amour. Ça, c'est des conversations que j'ai eues avec des amis nietzschéens. Enfin, pour être nietzschien ne veut pas dire grand-chose, mais enfin, qui ont pour la lecture de Nietzsche un amour de toujours. Cette hypothèse peut être faite, on peut la faire avec fantaisie, je veux dire, c'est évident qu'il... Et dans quelle tristesse serions-nous que Nietzsche ait renoncé à la pensée parce que un simple amour humain l'y aurait fait renoncer. C'est une question c'est comme Max Brod avec Kafka. Si Max Brod avait été l'ami fidèle et qui eût fait ce que Kafka lui avait demandé, il aurait simplement honoré l'humanité et l'amitié, et il aurait simplement appauvri infiniment la pensée et la littérature. Si Nietzsche avait aimé et été aimé, certainement l'existence de Nietzsche en eût-elle été augmentée, et la pensée et la philosophie infiniment diminuée. Mais c'est aussi la question que se pose toujours Kafka et que toujours Kierkegaard aussi, c'est doit-on sacrifier quelque chose de l'œuvre à faire pour l'amour? Alors les fiançailles indéfiniment remises, les noces indéfiniment impossibles, et où est-ce que quelque chose de l'amour est-il supérieur? Non. Oui, ça dépend. Oui, pour soi. Il ne restera rien mourant, il ne restera rien de tous les livres qu'on aura écrits pour soi. Sans doute simplement une figure d'amour, un regard d'amour, un mot d'amour, un geste d'amour, une disparition d'amour, un deuil d'amour. Certainement pas une phrase écrite. Certainement pas un livre lu. Peut-être même pas un livre lu. Certainement pas en tout cas une phrase écrite. Et pourtant, cet auteur, la mort, il restera pour tous ceux... Je le fais dire aussi. Dans toute cette solitude que je dessine du narrateur, il y a cette intimité qu'il entretient avec les livres. C'est une intimité plutôt blanchotienne, assez peu nietzschéenne. La solitude est aussi traversée par les livres. Et les livres nous rendent infiniment amoureux aussi de ceux qu'ils ont écrits. C'est vraiment, c'est pour ça que je vous disais au début, je ne crois pas exagérer du tout, et je n'exagérerai certainement pas en vous disant, c'est un fatras de questions. Il n'y a rien de professoral là-dedans. C'est un fatras de questions. Je ne sais même pas comment ça s'est organisé, en tant que tel. Sans doute par de très intenses états de fatigue, dans lesquels j'ai écrit ça, de très intenses états aussi d'euphorisation, de vitesse, et peut-être aussi de rythme, de musique, de pensée, de vitesse de pensée, de rythme de pensée, de musique de pensée, d'image de pensée aussi. C'est en cela que je qualifie cela de roman, mais bien évidemment, ce vrac-là de questions, toutes existentielles, comment faire de la littérature, sait-on sur la littérature, peut-on tout dire, même au risque de blesser qui est le plus proche. C'est des questions que des amis philosophes se sont posées auprès de moi, devant moi, qui se sont ouverts à moi, dont je me suis ouvert aussi. J'ai connu des amis qui ont eu peur d'aller jusqu'où pouvaient les porter leurs pensées, parce que ils savaient bien que ça déstabiliserait tout ce qui serait autour d'eux, qu'ils ne pourraient plus être vus par ceux qui les entouraient pareillement. Les œuvres demandent beaucoup, beaucoup de hauteur à ceux qui partagent aussi les œuvres. C'est des très proches, je veux dire. Évidemment, plus loin, ça engage beaucoup moins d'effets. Quand j'ai écrit Olivier, ça, c'était des secousses familiales, quand même, pour ce qui reste, pour moi, de famille. En tout cas, c'est des secousses, ça produit des effets extrêmement violents. Quel droit avons-nous de produire de telles secousses? Et si on s'octroie ce droit, obéissant à une idée que Bataille m'a enseignée, qui est celle de la souveraineté de la littérature, sa liberté sans bornes, eh bien, il faut aussi mesurer que ce qu'on mesure davantage en vieillissant, moralement, humainement, ce n'est pas sans effet, et sans parfois effet de saccage. Alors, la question est effectivement, toutes les questions, parmi toutes les questions dont ce livre est plein, il y a celle, effectivement, de ce qu'on serait prêt à faire prévaloir, de la prééminence en soi, de la souveraineté de la pensée, ou de la souveraineté de l'amour, ou du lien, ou de l'amitié, ou de l'amour, j'entends jamais dans ce livre-là, que la forme surdéterminante de toutes les formes affectives des liens.
L'essentiel de la discussion entre le narrateur et Dagerman concerne l'éternel retour de Nietzsche. Néanmoins, je retrouve dans ce livre une continuation, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, une continuation de votre réflexion à la fois sur la consolation et à la fois sur la littérature également, ce qu'est la littérature. Alors, déjà j'avais cette première question, parce qu'à certains moments j'ai eu l'impression d'une confusion sur les termes, entre le terme de roman et le terme de littérature. Qu'en est-il pour vous? Est-ce que le roman englobe toute la littérature, ou est-ce que le roman n'est qu'une partie, une possibilité de la littérature?
Non, c'est une question pertinente, parce que l'ambiguïté demeure dans tout le livre, parce qu'elle n'est... elle n'est pas résolue par moi, et je ne cherchais pas à la résoudre. D'ailleurs, effectivement, le mot roman, j'ai d'abord voulu appeler ça l'éternel retour, virgule roman, comme sur le modèle de ce très beau titre d'Aragon qui est Henri Matisse, virgule roman. Le mot roman, là, permettait la plus grande liberté. C'était peut-être le récipient le plus vaste, pour parler simplement, et je ne sais pas ce qui allait remplir ce récipient-là. Littérature, évidemment, chez moi, a presque une majuscule, alors qu'un roman n'en aurait pas du tout. Et que dans littérature, je fais entrer aussi le travail de la pensée. Alors, mon désir serait que le roman puisse être l'un des moyens de la littérature, avec cette majuscule que je mets un peu candidement, parce que bien évidemment aucun mot n'appelle de capitale. Mais bon, là où Dieu avait sa capitale, littérature pour moi en aurait une aussi. Dès l'instant que je pense à Kafka, je pense effectivement ou à Joyce par exemple, ou à Hermann Broch, je pense à la littérature avec une capitale, c'est évident, je ne peux pas faire autrement. Alors évidemment, le roman est-il le lieu dans lequel tout ceci peut entrer? Non, littérature, oui, certainement déjà. Mais comme je voulais que la forme de cette littérature-là, pour ce moment-là, c'est-à-dire ce livre paraissant en janvier 2005, s'appelle roman, eh bien, j'ai essayé de faire entrer cette forme sans borne, qu'est la littérature, dans cette forme sans doute bornée, et sans doute déjà morte. En tout cas, tout le monde en est d'accord, évidemment. Le mot roman, on pourrait en parler longuement, mais évidemment, depuis, par exemple, Joyce ou Beckett, le roman est mort, c'est une chose tout à fait évidente. Et en même temps, quelque chose, si on fait l'oubli du grand roman psychologique passé, on pourrait ajouter nos contemporains comme Guyotat, mais aussi avant, Bernard Noël, ça, tout ceci, on fait que la forme roman, il n'en est même pas question d'en discuter, est une forme éteinte, caduque, comme disait l'autre. Mais peut-être est-il possible de faire revenir dans ce que j'appelle hypothétiquement ici roman, beaucoup, voire tout, savoir tout. Je vois bien que les limites dans des formes de la philosophie dans lesquelles mes amis philosophes parfois souffrent pourraient peut-être être comme diminuées si quelque chose d'eux et de leur travail pouvait venir s'inscrire dans quelque chose qui s'appelait eux aussi roman. Ils n'oseront pas, évidemment, ils ne se permettront pas. Personne ne se permettra ça, mais il faudra en faire l'essai. J'avais vraiment cette intention, dans la mesure où, comme vous l'avez dit, les réflexions sont les mêmes que selon que je les mène dans des livres de littérature ou dans des livres des essais sur la littérature. Ce sont les mêmes, c'est évident. D'une certaine façon, dans ce livre sur la consolation, les thèmes sont les mêmes que dans Humanimalité. Comment sauver ce qui est perdu. Ce sont les mêmes thèmes, sauf que cette fois-ci, je les prends différemment. Et en même temps, je fais venir des philosophes, je convoque des philosophes, et je convoque des écrivains, Bruno Choux, je convoque Joël Bousquet, par exemple. Voilà, c'est une chose dont j'ai eu le sentiment, le pressentiment à ce moment-là, que le roman me l'allait permettre. Je crois que oui, mais il faudra en même temps pouvoir faire quelque chose qui aurait 800 pages, 1000 pages, où tout ceci pourrait entrer, tout pourrait entrer. Et c'est toujours donc le grand rêve du livre, de l'unique livre dans lequel tout pourrait converger. Il y en a, La mort de Virgile, de Hermann Broch, Dr Faustus peut-être, Thomas Mann, sont-ils de ces très grands livres dans lesquels tout converge, rien n'est laissé. L'histoire, la musique, par exemple, la pensée, la poésie, Dieu, l'amour, tout est là. Donc, ce que ne peuvent pas séparément la littérature en tant que telle, la poésie en tant que telle, la philosophie en tant que telle, peut-être quelque chose qui a eu non-roman et qui pourrait avoir de nouveau non-roman, le pourrait. C'est l'hypothèse optimiste et peut-être inutile dans laquelle je me place. Peut-être qu'il faudrait que tout ceci n'ait plus de titre du tout. Si j'avais mis Éternel Retour tout seul, ce serait aller en librairie dans les rayons philosophie, tout de suite. C'est évident. C'est une objection qu'on a faite. Mon ami Jean-Luc Nancy m'a dit, mais pourquoi tu n'appelles pas ça Éternel Retour seul? Et j'ai dit, oui, mais ce n'est pas un livre de philosophie, ça aurait été en philosophie, tout de suite. C'était question presque de peu intéressante d'ailleurs, qui régisse aussi les façons dont on annonce un livre.
Pour continuer sur cela, vous posez à nouveau la question dans ce livre sur ce que peut la littérature, et vous liez cela assez fortement à la consolation. Alors je vous pose la question, je vous l'avais déjà sans doute posée la première fois qu'on s'était rencontrés. À la lecture de ce livre, ou à l'écriture de ce texte pour vous, que peut la littérature, et dans la littérature plus particulièrement, que peut le roman ?
Que peut la littérature tout sauf ce qu'elle ne peut pas. La littérature est la plus grande chose à l'exception de ce qui ne lui appartient pas. Il y a une réunion de textes, c'était une réunion de la mutualité qui a eu lieu, je crois, dans les années 60, 66, 67, qui s'intitulait Que peut la littérature? Il y avait, je me souviens, Sartre, de Beauvoir, Ricardo Faye qui avait répondu à cette question. Alors, il l'a posé en un sens assez restrictif et politique à l'époque. J'entends bien que ce n'est pas en ce sens-là que vous la posez. D'une certaine façon, mais il faudrait reprendre ça sur le modèle de la théologie négative. La littérature est tout ce qu'elle n'est pas. Ces déductions faites de tout ce qu'elle n'est pas, de tout ce qu'elle n'est pas le reste, que la littérature est quelque chose. C'est pour ça, la forme romanesque, que j'y reviens aussi. Ce livre obéit à quelque chose, ce que je fais souvent, mais la plus, à une sorte de vertige de la répétition. Je pense que c'est un vertige logique. C'est un livre logique, il me semble, de bout en bout, quoique cette logique soit folle. Je voulais que cette folie suscite un effet de vertige, comme indiquant que quelque chose fuit. Tout ce que j'écris indique que quelque chose fuit, échappe. Et tout ce que j'écris indique aussi une absence d'issue, toujours. Et d'une certaine façon, j'appellerais littérature et ce qui échappe et ce qui fuit et l'absence d'issue dans laquelle on est. C'est cette tension. C'était donc à la fois, d'une certaine façon, c'est dans un texte que j'avais écrit sur l'idiotie de bataille que je m'en suis le plus approché. C'est à la fois quelque chose, alors Bataille l'appelait l'impossible, la littérature peut ce que ne peut rien d'autre, c'est-à-dire s'approcher le plus, c'est impossible, à ceci près qu'évidemment c'est impossible, lui est inaccessible. Mais sa définition, c'est l'impossible même. C'est certainement sa meilleure des définitions possibles. Sauf que l'impossible ne constitue pas une définition. Puisque cet impossible, c'est ce défaut, c'est pas un excès. La littérature n'est pas définissable par excès, elle est définissable par défaut. D'une certaine façon, comme Dieu. Le mystique ne dirait jamais autre chose, d'une certaine façon. Évidemment, j'en exagère les traits en disant que la littérature est comme Dieu. Je vois bien dans quoi on va me faire retomber. Mais bon, j'en assume la conséquence ou la possibilité. Or, d'une certaine façon, on pourrait dire de moi ce que Sartre a dit de Bataille, sur « Je suis le veuf inconsolable de Dieu ». De toute façon, il y a une inconsolation de Dieu, de la possibilité de Dieu, au milieu de tout ça. Évidemment, si c'est vous-même qui m'aviez posé la question sur la sacralisation que je forme de la littérature, évidemment, il y a quelque chose qui appartient à cette disparition. Donc la littérature, comme l'art, j'entends pas la littérature strictement, comme la peinture, comme la musique, est le moyen pour moi, est cette immense tension de l'homme vers quelque chose qui constitue l'impossible que Dieu a incarné aussi longtemps que l'homme a incarné l'impossible dans le nom de Dieu. Sitôt que l'homme a vu que Dieu ne suffisait pas à incarner le nom de l'impossible, il a bien fallu que cet impossible s'incarne en autre chose. L'art est sans doute encore le moyen pour nous de mesurer que de l'impossible existe encore. Voilà, cette tension-là, c'est la littérature.
J'en viens à ma dernière question, qui est une question très ouverte. Dans Humanimalité, il y avait une grande réflexion sur ce que sont les bêtes, ce qu'est l'homme, et comment ça peut se mêler. Je résume très très mal. Ma question la porte sur la consolation, et j'y trouve une grande évolution, et là je vais vous citer, parce que cette phrase m'a assez bouleversée, et je trouve que c'est vraiment une grande, grande évolution sur la réflexion que vous avez menée dans Humanimalité. Cette phrase, c'est « Est-ce que le destin des bêtes n'en appelle pas autant que celui des hommes à la réparation ?»
Oui, ça c'est vers quoi je vais de plus en plus, c'est évident. Derrida, à la fin, allait aussi vers ça. Ça, c'est tout à fait bizarre, d'ailleurs. Mais c'est inévitable. Mais c'est aussi partie de ce que je proposais dans Humanimalité, qui était qu'on avait fait aux hommes le sort des bêtes, et donc au camp le sort des abattoirs, et qu'il allait inévitablement nous revenir, que le sort des bêtes allait être indissociablement le sort des hommes en général. Oui, la question, là, elle est trop douloureuse et puis trop compliquée pour que je puisse y répondre mieux que cela. Je la pose plaisamment sur le mode du retour de l'araignée. Et c'est chez Nietzsche. Je fais un moment, Dagerman et Boès sont relativement en désaccord, et notamment Dagerman avec le fait que... Non, je crois que c'est Boès qui est prête à Deleuze, une interprétation exagérément réparatrice de l'éternel retour. Et la vision de Dagerman est une vision plus tragique. C'est-à-dire que tout retournera, tout doit retourner, et pas seulement ce qui est susceptible de consoler, et ou de réparer. Et tout ce qui mériterait donc de retourner. Là, il y aura un paradoxe, effectivement. Et Boès, du côté de Nietzsche et de Dagerman, sont sans doute d'accord avec le fait que tout doit retourner, même le mal, même ce qui... Il faut avoir aimé l'existence assez pour que celle-ci soit susceptible de retourner, mais il faut l'avoir aimé assez en tout. Si tant est que nous choisissions parmi ce que nous avons vécu, eh bien, nous condamnerions l'existence en tant que telle. Je crois que c'est vraiment ce que Nietzsche dit. Mais ce n'est pas certain. C'est vrai qu'il y a quelque chose d'énigmatique dans l'éternel retour de Nietzsche, que tantôt il le voit de façon très tragique, et tantôt lui-même s'accroche à quelque chose de consolant dans l'éternel retour. C'est de ça que le livre parle, et c'est pour ça que Nietzsche vient dans ce livre. C'est parce que pour moi la question est de la consolation et de la réparation, et vous avez raison de parler de la réparation, parce que la consolation et la réparation sont presque la même chose, et est-ce qu'on est capable de concevoir une consolation qui ne soit pas forcément réparatrice et qui ne redistribue pas ou qui ne rétribue pas un mérite. Donc, la vraie réparation serait plus que la consolation. Le christianisme le dit, en quelque sorte. Le judéo-christianisme le dit, en quelque sorte. C'est évident.